Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'équipe du Limoud France 2025, une partie en tout cas, Marilyn de Nergar et Laurent Jutkiewicz. Bonsoir Marilyn et Laurent.
Bonjour Sandrine.
Bonsoir Sandrine.
C'est un plaisir de vous recevoir, d'autant que cette année est particulière, puisque le Limoud célèbre son 20e anniversaire, 20 ans déjà. C'est un millier de participants qui sont attendus, soit le temps d'un Shabbat plein du 7 au 8 mars 2025, du 7 au 9 mars 2025. Finalement, est-ce qu'on peut commencer par rappeler ce qu'est Limoud et comment cette initiative a vu le jour en France?
Alors Limoud, 20 ans effectivement, une grande partie de l'équipe était déjà présente. D'autres nous ont rejoints, dont nous-mêmes, au fil du temps. Alors, on a vu des images lors d'un séminaire interne d'il y a 20 ans. C'était absolument incroyable et très, très émouvant. Vous devez connaître Ruth Wozanak,
qui
est la fondatrice et qui a importé le concept de Limoud en 2006, après avoir elle-même été à Limoud UK, qui est la référence des Limoud, qui a été créée dans les années 80. Qui reçoit sur une semaine, autour de la semaine de la dernière semaine de décembre, plus de 2000 personnes. Et elle avait été complètement conquise par l'événement. Et elle est, au bout du deuxième jour, elle s'est dit « Allez, j'importe le concept en France ». Elle a monté un business plan, une équipe. Elle l'a présenté au board de Limoud UK, qui l'a bien évidemment validé. Des partenaires institutionnels se sont, dès le début, joints à l'aventure. On ne les remerciera jamais assez parce qu'ils sont essentiels au développement de Limoud. Et c'était parti. Et dès la première année, ça se passait à Versailles, il y avait 540 participants pour cette première édition de Limoud. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire des 20 ans.
Alors, pas l'histoire des 20 ans, mais finalement, c'est quoi les objectifs de Limoud et pourquoi cet événement est unique, et notamment en France?
Alors, ce qui est unique en France et effectivement à l'international, c'est que pendant 3 jours, alors ça c'est le Limoud national, comme on dit, on se réunit, comme tu l'as dit, à plus de 1000 personnes à peu près, pour échanger, dialoguer, partager et aussi se rencontrer. Et ce qui est formidable, c'est que c'est ouvert à toutes les sensibilités. Donc, du laïc au religieux, avec différentes tendances de religieux, évidemment, mais aussi des non-juifs qui sont, alors pour le coup, dans le contexte actuel, évidemment, c'est très important, philosémites, et qui ont envie de partager cet événement, découvrir, il y a plus de 150 conférences, Marilyn va parler d'un programme complètement fou cette année, qu'elle a monté à une vitesse incroyable, pour partager sur tous les sujets, que ce soit Israël, la Torah, la culture, l'histoire,
L'IA
bien sûr, qui est fondamentale en ce moment, les technologies, les sciences. Et en fait, chacun peut se faire son propre parcours. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde est dans le même bateau. L'équipe qui organise l'événement, évidemment, une équipe de bénévoles, on est en mode, à quelques jours de l'événement, en mode start-up de combat, c'est une folie, on reçoit des WhatsApp à 3h du matin, c'est incroyable. Et les participants, évidemment, qui sont complètement dans la bienveillance, dans le partage, dans l'échange, on fait des pauses entre chaque conférence, on échange sur ce qui vient de se passer. Et très important également, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, c'est les intervenants qui sont aussi totalement partie prenante, qui sont là pour proposer leur savoir. Ce peut être des gens connus, mais aussi des gens qui ne sont moins connus. C'est ça qui fait la force de Limoud, mais avec des spécialités très particulières. Et ils sont là pour proposer leur savoir. Limoud, ça veut dire apprendre et partager et échanger. Et donc à Limoud, en fait, on apprend grâce aux autres, on apprend avec les autres, mais surtout, on apprend aussi sur
ensemble,
soi-même et ensemble.
Et je voudrais rajouter une chose, c'est que c'est transgénérationnel. C'est-à-dire, c'est pour un, pas pour un certain public, c'est pour tout public.
C'est très important.
Ça peut aller, on a un pôle famille, et ça va jusqu'à, ça a failli être jusqu'à 100 ans cette année. Mais voilà, c'est transgénérationnel et c'est très important que Limoud apporte des jeunes, la relève et qu'ils nous mettent en prise directe avec l'actualité, les thématiques qui sont très importantes pour notre communauté juive.
Et c'est un objectif important de développement pour l'IMU, tout à fait. La jeunesse.
Alors donc c'est une grande famille qui dialogue, qui s'enrichit, peut-être qui se dispute, qui se débat autour d'activités, c'est ça aussi la vie. Et puis il y a un thème chaque année, cette année c'est « Comme un juif en France ». Alors pourquoi Marilyn avoir choisi d'aborder, d'explorer l'histoire des juifs en France pour cette édition anniversaire ?
Bien parce qu'on a eu un choc terrible, il y a eu un tournant dans notre histoire et je me suis rappelée d'une phrase d'un grand poète allemand, Heinrich Heine, qui au 19e siècle disait « heureux comme un juif en France ». Il était jaloux de la condition des juifs de France et donc cette phrase m'a interpellée et c'est vrai qu'en mettant trois petits points avant et un grand point d'interrogation, c'est dit « mais où va notre communauté ?» Une communauté qui a enrichi la France depuis 2000 ans, parce que les premières communautés, elles datent de la Narbonnaise sous l'Empire romain, je ne vais pas vous l'apprendre, Sandrine, et jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu des étapes, des phases, mais le tournant, la focale, je crois que c'est le 7 octobre, on va en revenir, on va revenir là-dessus, mais c'était très important de faire un prolongement. Ce forum de la vie culturelle, ce n'est pas un colloque, c'est à la portée de tout le monde. Et cette année, j'ai voulu que ça soit aussi une mise en éveil des consciences des juifs de notre communauté qui représentent que 0,2%. Que faisons-nous après le 7 octobre? Comment peut-on résister au 7 octobre? Et là se pose la question fondamentale pour moi, est-ce que la République est encore en capacité de protéger les juifs? Parce que si vous regardez les articles de cette revue qui s'appelle la revue K de Monsieur Bou, Stéphane
Bou,
il pose trois questions. Est-ce que c'est l'assimilation, l'invisibilité ou un départ? Je ne parle même pas d'alia, mais partir. Et donc ça, pour moi, ça a été très très important de mettre en éveil la conscience et aussi la réaction et la résistance.
Alors, il y a deux éléments que j'aimerais compléter à ce que vous venez de dire, parce que c'est tout à fait passionnant. Une étude apparue il y a quelque temps d'un des plus grands démographes qui s'appelle Sergio Della Pergola et qui estime aujourd'hui le nombre de Juifs en France à moins de 430 000.
Oui, tout à fait.
Ce qui est le chiffre le plus faible depuis en tout cas la libération. Et il explique ce chiffre en raison de plusieurs données. Alors, pas seulement le départ des Juifs de France, mais aussi l'assimilation qui fait que les Juifs perdent leur identité et ne se reconnaissent plus comme Juifs. Donc c'est tout à fait intéressant d'aborder cette thématique. Et dans ce que vous avez dit, alors en tant qu'historienne évidemment, heureux comme un Juif en France, ça me parle beaucoup. C'est une notion que j'ai étudiée. Évidemment, il y a des Juifs en France depuis le 1er siècle, au moment de même avant l'expulsion des Juifs du Second Temple, en plus 70 par Titus, des Juifs se sont retrouvés en France, notamment sur le couloir du Rhône. Il y a eu des pièces qui ont été estampillées, etc. Et puis il y a eu, à partir des avancées napoléoniennes, ce dicton qui était un dicton yiddish. Heureux comme Dieu en France,
tout
qui a
fait
inspiré la phrase de Heinrich Heine. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la France était, pour les Juifs d'Europe centrale et orientale, pour la Middle Europa, le pays où on avait été capable de les émanciper, de leur octroyer la citoyenneté française et puis d'organiser le culte.
Oui.
La France était un modèle. Et c'est vrai, depuis le 7 octobre, on se demande finalement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les Juifs ont encore une place en France?
C'est pour ça qu'on a mis trois petits points avant le COP.
Très
et
important.
Un point d'interrogation. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle avec des amis, des proches de la famille, on se demande où on se trouve.
Ouais.
Où est-ce qu'on en est?
On est un peu perdu. Et ce pacte fort révolutionnaire qui a été initié en 1791 par l'abbé Grégoire, on se demande si ce pacte, si la nation juive qui est devenue une nation, qui est rentrée dans la nation française, est-ce qu'elle est en phase avec la France? Et on peut se demander, et les nouvelles générations conteste la mémoire de la Shoah. La Shoah ne n'est plus un modèle de respect vis-à-vis des morts. Et ça, il faut le dire.
Elle est banalisée. Elle force est de la convoquer.
Et dévoyée.
Et dévoyée, oui.
Tout à fait.
Elle perd de son unicité. Alors, comment, Marilyn, on élabore un programme autour de l'histoire des Juifs en France? Quels seront les points forts de cette programmation?
Les points forts, c'est qu'il faut rappeler à notre communauté juive qu'on est présent depuis très longtemps et qu'on a enrichi. On a... fait évoluer la France. Et on est parti, enfin moi je suis partie, d'une chronologie. Parce que les gens qui ne sont des non-initiés, qui ne sont pas forcément historiens, ne savent pas qu'il y avait une telle présence et une telle force. Et malgré les aléas, les persécutions, les expulsions, eh bien elle a résisté. Et elle a continué à être en adéquation avec les valeurs, puis ensuite avec les valeurs de la République. Et aujourd'hui, heureusement que la Torah est là pour nous renforcer dans nos valeurs et pour pouvoir résister. Et ça, c'est d'une grande, pour moi, c'est d'une très grande beauté. Donc, on est parti de l'Antiquité avec Madame Hadass Lebel, ensuite avec le Moyen-Âge. Comment est-on juif sous Rachi à Troyes? Et là, on a un super expert qui s'appelle Abel Lamauvinière qui vient de Troyes et qui nous fait vraiment l'honneur de venir. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et ensuite, on va switcher sur l'époque de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est quand même une période assez exceptionnelle de renouveau spirituel et économique. Et on va parler des marranes. Et je dois le dire que Pierre Mamou nous fait l'honneur de venir. Je l'ai rencontré dernièrement. On en a parlé. Et il y a aussi Dominique Jarassé, qui est le grand spécialiste des synagogues, avec le grand photographe David Abitbol. Et il y aura Jean-Marc Israël qui nous parlera des Juifs du Comtat venaissin. Ce n'est pas rien. Ensuite, autre étape, c'est la Révolution française, qui est une étape cruciale, comme on vient de le dire, je ne vais pas le développer. Mais il ne faut pas oublier aussi que le 19e siècle, c'est un siècle qui a été marqué par l'antisémitisme. Et j'ai fait venir quelqu'un qui s'appelle Frédéric Vier, qui ne va pas nous parler de Dreyfus, mais de, André Crémieux-Foix, qui a été le précurseur de l'affaire Dreyfus, qui était aussi, lui, un cadre de l'armée et qui a été expulsé en Afrique pour ne plus avoir à parler et gêner l'armée française. Donc voilà, donc là aussi, je suis hyper contente, Philippe Landau, qui est le grand conservateur des archives juives des consistoires israéliens de France, vient. C'est une personne très sympathique. Et lui, va faire un travail sur... les Juifs ont la citoyenneté, mais bon...
Ça suffit pas.
Oui. Voilà. Qu'en est-il vraiment? Alors, il y a David Manot, le grand chercheur du CNRS qui vient, qui va parler du grand Sanhédrin. Il y a quelque chose que j'ai cherché, c'est le CASIP. Le CASIP, qui est une institution juive, elle a été créée par Napoléon. Et c'est Julia Haddad qui va en parler.
Ça comme aussi... les consistoires.
Mais ouais. Oui, parce que ouais. c'est des pépites que peut-être notre public ne connaît pas. Et donc ça, c'est important. Et puis on reviendra sur la tragédie de la Shoah. Et très rapidement, je dirais que la mémoire des hommes et des femmes qui ont subi les persécutions, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des gens, de cette nouvelle génération qui refuse, qui nie justement les camps de concentration? Et là, pareil, Claude Kupermeck de la Bibliothèque israélite de France vient, Jacques Tarnero, le grand cinéaste et spécialiste de l'antisémitisme, Patrick Desbois, qu'on connaît très très bien.
Grand monsieur.
Et puis, une certaine personne qui s'appelle Sandrine Zwark va venir aussi.
Apparemment, oui.
Apparemment. Et puis, Laurent Weinsberg sur... Auschwitz, et puis Valérie Boussard. Voilà pour ça. Et puis, peut-être qu'on en reparlera, mais le choc, le tournant que produit le vaste pogrom du 7 octobre, qui a ravivé toutes nos inquiétudes et qui a mis en lumière vraiment les tensions internationales, les fractures profondes de notre société et tous les impacts multiples, à la fois psychologiques, physiques, et même les institutions juives en France travaillent sur le moral des gens. Et donc ça... Franchement, c'était important d'y mettre quelque chose. Et je dois quand même le dire, vous qui avez assisté aux conférences de l'antisémitisme aujourd'hui, en 2025, il est décomplexé. Il agresse, il exclut, il tue. Et ça, il faut le dire à notre communauté, qu'il faut se ressaisir. Donc, la question que je vous disais tout à l'heure en aparté, est-ce que la République protège-t-elle encore les Juifs de France ? Quel va être leur nouveau destin à ces Juifs ? Moi, je suis inquiète, parce qu'il ne faut pas que les Juifs rentrent dans un statut de dîmime. La dîmitude, non. La résistance, oui. Et donc là, si vous me permettez, si j'ai encore deux petites minutes, bien je sûr. Voudrais parler de la présence de Josiane Sbeiro, de Jean-Yves Camus, le plus grand des spécialistes de l'antisémitisme, Julien Darmon, grand éditeur qui a sorti une encyclopédie absolument fantastique, David Reynarch, Stéphane Ancel, Mohamed Sifaoui, qui a le courage de venir, Yana Grispunt, c'est quelqu'un qui va nous ouvrir l'esprit sur les accords de 1974 en France jusqu'à aujourd'hui, sur l'entrée islamique et du point de vue politique, comment ils ont mis ça en... Didier Meyrlon, qui a fait un podcast magnifique sur la chasse aux Juifs a commencé, il va en parler. Et je finirai par Youssef Murciano, Véronique Chemla, qui est une grande journaliste. Voilà, et puis, pour finir rapidement, eh bien, malgré tous ces aléas, les Juifs de France ont un engagement indéfectible avec Israël. Et là, cet attachement profond avec leurs liens, on l'a vu avec la mobilisation des manifestations, des collectifs, des affiches, des réseaux sociaux qui font qu'ils collent à l'actualité israélienne. Et là, grâce à Denise Corza et puis à d'autres, bien sûr, eh bien on fait venir l'ambassadeur, M. Zarka. On va croiser le fer avec le grand rabbin de France et Monseigneur Veteux, qui vient du diocèse des Ardennes. On va parler de Nosra Aetate, c'est-à-dire le changement qu'a voulu opérer le Vatican sur la vision des Juifs en France. Qu'en est-il ? Il y a Yaël David de l'OSM qui vient, et puis, bien sûr, Christophe Lesourd, qui est un des responsables, justement, de l'amitié judéo-chrétienne. Donc, moi, je dis, rejoignez-nous pour comprendre les défis, les réussites et les transformations de cette communauté qui commence à vraiment changer le paysage français et s'interroger ensemble sur notre devenir, peut-être pour résister.
Alors, un programme alléchant, très riche. Il faut vraiment insister et préciser que ce ne sont pas des conférences académiques. Oui. Ce sont des lieux où on a des éclairages qui sont apportés sur des sujets et tout le monde peut y assister, quel que soit son degré de formation ou de culture générale. Alors, on a vu... qu'il y a plus de 2000 ans d'histoire des Juifs de France qui vont être balayés, l'antisémitisme évidemment hein, qui a accompagné cette histoire, et puis le dialogue judéo-chrétien. Est-ce que vous pouvez nous dire quel public vous attendez cette année ? Est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il y aura des nouveautés ?
C'est une très bonne question, parce qu'on a mouliné des chiffres hier soir, oui, avec Georges Temim, qui est responsable de la conférence avec moi-même cette année, et c'est très intéressant. Puisqu'en fait, on n'arrive pas à faire le bilan des 20 ans en termes de duplication, parce qu'il y a des fichiers d'origine diverses, mais on estime qu'il y a 12 000 personnes à peu près qui ont assisté à un événement Limoud depuis le début. Alors quand on dit 12 000 personnes, c'est évidemment pas des visiteurs uniques, mais c'est 12 000 personnes.
Toutes éditions confondues.
Bon, si on fait un point par rapport aux dernières années, on se rend compte qu'on a grosso modo 60% des gens qui reviennent d'une année sur l'autre, ce qui est considérable, et qui prouve l'attachement de notre public à Limoud. Mais cette année, il y a 40% de nouveaux. Donc 40%, c'est significatif sur le total de plus de 800 qu'on a évoqué tout à l'heure, de tous âges. Et c'est ça qui est aussi très chouette. Et quand on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit qu'on a à la fois des gens qui viennent via leurs amis, leur famille, qui a déjà participé à Limoud, mais également par les actions de communication qu'on peut mener. Alors, il y a un point qui est aussi important dont on peut peut-être parler, c'est que, bon, on a le Limoud National qui a lieu le week-end prochain, mais on a également développé pas mal d'actions en région pour développer de nouveaux publics et pour que Limoud soit présent un petit peu partout. Alors, depuis 2017, il y a un Limoud qui a lieu chaque année à Marseille, une journée au mois de novembre, généralement. Ça peut changer, mais... et qui a lieu à l'école Yévenet, qui rencontre vraiment un public important. Depuis 2 ans, un Limoud à Bordeaux, celui de 2024, a également très, très bien fonctionné. Et depuis cette année, on a fait au mois de décembre le premier Limoud Toulouse, qui a été un grand succès, avec un plateau magnifique. Et 250 personnes pour une première édition, c'est vraiment dans une ville comme Toulouse. Alors, c'est Toulouse-Occitanie, donc il y a aussi des gens de Montpellier, mais c'est quand même remarquable. Bravo, bravo à cette équipe. Et puis, il y a des événements parallèles avec nos partenaires. Alors, on a maintenant coutume de faire une journée au mois de juillet avec l'Écuche, qui est un partenaire essentiel de Limoud. Et ça aura lieu également cette année, le 6 juillet. Voilà, ne nous parlez pas de programme, on n'y est pas du tout encore. Et on a un très beau projet cette année avec notre soutien de toujours qui est le FSJU. Et on va donc participer au Festival des cultures juives du mois de juin. Et on aura une journée Limoud le 22 juin, le dimanche 22 juin, qui aura lieu à Rachi et dont le programme est également sera communiqué plus tard. Donc ce sont de beaux événements qui permettent aussi d'élargir le public de Limoud. Et comme l'a expliqué Marilyn tout à l'heure, la jeunesse est un facteur essentiel. Le FSJU, encore une fois, nous aide beaucoup et on aura cette année la présence d'une équipe de Noé pour la jeunesse qui viendra assister à tout le week-end. Et on aura également des interventions de Déborah Dahan qui s'occupe dorénavant de Noé et de d'autres personnes de l'équipe. Donc voilà, un petit peu les axes de développement. C'est essentiel pour nous. On veut vraiment élargir. Moi-même, ça fait simplement 3 ans que je fais partie de l'équipe. Et bon, j'avais été convaincu, comme tout le monde, par quelqu'un qui faisait partie de l'équipe et par quelqu'un qui avait assisté à Limoud. Mais je m'étais rendu compte que dans mon environnement proche, il y avait énormément d'amis qui étaient pourtant entièrement dans la cible de Limoud et qui n'en avaient jamais entendu parler. Donc on a encore un gros travail à faire pour évangéliser sur le public.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom, en compagnie de nos invités Marilyn et Laurent, qui nous parlent de la nouvelle édition de Limoud France, qui aura lieu cette année du 7 au 9 mars 2025. On a parlé des conférences, on a parlé de l'accueil transgénérationnel, mais on n'a pas parlé des événements qui sont dans le Limoud et qui sont un petit peu en marge, des ateliers, activités, des chants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui. Oui, parce qu'on a des thèmes transversaux et des ateliers. Il y a 19 ateliers. Il y a 148 conférences et rien que pour le dimanche, il y en a 68. Mais il faut pas les oublier parce que cette année, la programmation vous invite à explorer aussi le judaïsme et sur toutes ses facettes, l'histoire, la culture, la spiritualité, les aspects interreligieux et aussi les enjeux contemporains. Et je voudrais quand même dire que ce Limoud est un voyage intellectuel et sensoriel qui promet d'être très surprenant. Parce que quelques petits exemples, 3 petits exemples. Par exemple, on fait venir Franck Laloux et Tina Bossi sur les lettres hébraïques et la danse. On fait venir David Benkoff, Andrew Rosemarine de Londres et l'autre de New York. On fait venir aussi quelqu'un de New York pour parler des Juifs de New York, mais aussi des Juifs du Japon. Ils sont très, très loin, en distance, mais ils sont très proches dans leur identité. Il y a une identité commune. On fait venir des philosophes, mais surtout, j'ai fait venir 4 psychiatres, dont 2, Serge Franco et Erika Francese, qui vont parler dans leur cabinet du ressenti de leurs patients par rapport au 7 octobre. Je pense que c'était vraiment, pour faire une maïeutique, je pense que c'était très important de les inviter, ainsi que Déborah Gutmann et David Krause. Voilà. La coopération féminine, parce qu'il faut aussi s'occuper des personnes d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on fait après la retraite ou pendant la retraite? Et puis, une chose sur laquelle Georges va être contente que je l'évoque, c'est l'IA. Et on fait venir pléthore de personnes qui vont parler sur l'intelligence artificielle et l'éthique, à savoir le rabbin Azoulay, l'IA et le judaïsme, Jeanne Bloch, qui dénonce l'entrisme islamique au sein de Wikipédia avec sa collaboratrice Mélanie Rosenweg. Et vous avez aussi Myriam Ackermann-Sommer, qui va nous, que vous connaissez,
d'ailleurs,
va parler, voilà, sur les réseaux sociaux, comment on devient des moutons à cause des réseaux sociaux. Bon, elle va décortiquer tout ça. Et aussi Pierre Stanislavski. Quelque chose d'exceptionnel, je dois le dire. J'ai fait venir le directeur de Radio Judaïka de Bruxelles, en la personne de Isaac Franco, qui fait le déplacement pour parler justement du pouls qui se passe au nord de la France et comment les Juifs de Belgique et des pays autour réagissent aux événements. Et puis, bien sûr, on a les institutions juives qui viennent, des partenariats, il faut rappeler Magen David Adom, Colel, comme disait Laurent, Noé, le KKL. Donc, toutes ces institutions juives qui sont des fondements, qui sont des repères très importants pour nous. Et je laisse le meilleur pour la fin, vraiment. Ces 19 ateliers qui sont à la fois très riches en découvertes et en partage. Ce sont des ateliers de développement personnel et de créativité. On va essayer de se reconnecter à soi-même. C'est important, et à la culture juive, tout en s'amusant. Trois exemples. Par exemple, je vous demande de venir rêver et de plonger dans l'univers des parfums avec Emmanuel Green, de redécouvrir la fête de Pourim sous l'angle créatif avec Sandra Ankawa, que vous connaissez. Ressentir aussi la puissance des contes du roi Salomon. Il y a quelqu'un de Montpellier qui va venir les raconter. Les sessions de chorale avec Laurence Temim. Les danses israéliennes, l'initiation à la calligraphie, la méditation inspirée de la prière, et on en a bien besoin, des séances de Qigong aussi, et des ateliers de théâtre en la personne de Nathalie Ouana. Voilà.
Alors, un programme complet.
Alors, il y a également l'animation musicale.
Ah oui, c'est
alors,
vrai.
J'allais vous en parler justement.
Bravo.
Alors, je vous introduis avec une question. Le 7 octobre est un jour sans fin. On a l'impression que chaque jour amène avec elle sa mauvaise nouvelle. Et on a besoin aussi de lieux pour se retrouver, pour se changer les idées, pour se sentir
ensemble.
Et le Limoud en fait partie. Et peut-être que depuis le 7 octobre, davantage de participants viennent aussi pour ça. Être en famille, acquérir aussi de nouveaux savoirs, parce que l'accès aux connaissances est quand même un rempart sûr contre l'obscurantisme, et on a envie de ça. Donc, musique,
c'est une excellente
danse,
question.
C'est chant.
C'est un excellent point. L'année dernière, on s'était posé la question de savoir si, à cause du 7 octobre, on ne devait pas annuler l'événement. Et on s'est dit non, pas du tout.
Non, il faut résister.
Au contraire,
il faut le faire. Et on a été... dire, au-delà de nos espérances en termes de participants, et tout le monde s'est retrouvé et a fait le Limoud comme d'habitude avec la fête. Donc, ça sera pareil cette année, même si ces derniers jours, on a été tous bouleversés par l'actualité des enfants bibas.
Ouais, très dur.
On va continuer, et ça fait partie aussi des choses. Et je dirais même que c'est important de se sortir des réseaux sociaux, comme le disait Marilyn, et des chaînes d'information en continu, pour continuer son judaïsme, en pensant à autre chose et en réfléchissant, en faisant la fête. Et alors cette année, ça va être exceptionnel. Bon, au-delà de la Havdala qui a lieu à la fin de Shabbat, qui est toujours un grand moment de communion, de partage et très émouvante en musique, on aura un concert à partir de 23h le samedi qui sera assuré par Maeva Borzakian, qui est une chanteuse assez connue de la communauté, qui a elle-même des acquaintances, qui est spécialisée soul funk. Superbe chanteuse avec une très très belle voix et qui sera accompagnée, ça c'est bon, avec des musiciens très chouettes, mais notamment son claviériste qui s'appelle Gaël Benyamin, qui est assez connu dans la communauté sous le nom de Geister. C'est un spécialiste de la musique californienne des années 80, donc il nous fait l'honneur d'être là, ça va être très très chouette. Ça sera suivi, pour ceux qui auront encore la force et l'énergie, alors là on est plutôt autour de minuit et demi, on va dire, d'une scène ouverte / karaoké. Avec un pianiste et une chanteuse, et on va chanter comme l'année dernière, on va s'éclater. Donc voilà, le samedi soir est bien, bien réglé.
Et on va bien manger aussi.
Et puis, alors...
Ça fait aussi partie des plaisirs de la journée.
Oui, on va bien manger. On est le seul Limoux dans le monde, il y en a plus de 90 où on mange aussi bien. C'est la spécialité française, on va dire.
Il y a un de nos collègues, je voudrais quand même le saluer, c'est Claude Arfi qui dit toujours, la restauration, c'est une restauration de bar mitzvah. Mais cette année, j'ai l'impression que ça va être une restauration de mariage même.
Voilà. Hein, on monte d'un cran.
Juste terminer de préciser que le dimanche, l'événement de clôture, c'est une tombola avec des lots très sympathiques, des œuvres d'artistes. J'ai vu qu'il y avait une année d'Ulpan à l'Écuge. C'est chouette, moi j'aimerais bien gagner ça.
Ah oui, c'est pas mal.
Gad, si tu nous entends,
oui.
Ça sera avec plaisir. Et il y aura également une animation musicale avant cette tombola. Et cette année, on a choisi de la jouer Bossa Nova. Cool. Donc ça va être très sympa aussi. Alors, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Enfin, une bonne pour nous qui est que, en fait, malheureusement, le week-end est complet. Donc, si vous souhaitiez venir pour les trois jours...
C'est vraiment une mauvaise nouvelle, Laurent.
C'est une mauvaise nouvelle pour le public, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il fallait s'y prendre un petit peu avant, c'est pas faute de vous avoir prévenu. En revanche, il reste bien évidemment des places pour le dimanche.
Alors concrètement, comment on fait? Là, évidemment, on vous a écouté, on a envie de venir, de découvrir ou de revenir au Limoud. Comment on s'inscrit?
Très simplement, on s'inscrit en regardant soit les pages internet, Facebook et Instagram de Limoud France, le site internet qui est www.limoud.org. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Donc, plus que pour le dimanche pour l'instant, mais avec la possibilité, puisqu'on est en dehors de Paris, pas très loin, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais la plupart des gens connaissent, vous pouvez utiliser le service de navette qu'on propose aux participants. Donc, vous pouvez venir prendre une navette de Paris le dimanche matin et rentrer le soir avec cette navette. Donc, ça, c'est quand même sympa. Ou vous garer dans les parkings alentours. Enfin, tout est précisé au moment de l'inscription. Donc, il reste quelques places, quelques poignées de places pour le dimanche, mais il faut faire vite.
Laurent,
l'événement arrive très vite.
Est-ce qu'on peut préciser une chose pour les inscriptions? C'est-à-dire que les gens, s'ils ne s'inscrivent pas sur le site, ils ne peuvent pas rentrer à l'événement.
On ne peut pas le dire à l'heure où on se parle.
Parce que là, en fait, il faut aborder un sujet. C'est celui de la sécurité.
Voilà,
il y a aussi des personnes qui ont des réticences à aller dans des lieux où des groupes juifs sont regroupés. Et là, il faut dire qu'au niveau du Limoud France, il n'y a aucun souci par rapport aux questions sécuritaires.
Vous pouvez être complètement rassuré. C'est un Ashkenaz qui vous parle. moi-même, j'ai hésité. Hein. J'ai failli pas venir cette année, l'année dernière. Non, je plaisante. Bien sûr, il y a le SCPJ qui nous aide. Et puis, on est en rapport avec la police nationale de manière très proche. Donc, l'événement est vraiment sécurisé comme il le faut. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. On ne se rend même pas compte de la sécurité tellement elle est bonne et forte. Donc, vraiment zéro souci de ce côté-là.
Il y a une question classique pour terminer cette émission. Je vais vous la poser, Marilyn. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom et de la fréquence juive en général, de venir vous rejoindre, de découvrir cet événement auquel il faut vraiment assister. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais tout simplement, soyons ensemble et préparez-vous à vivre une expérience festive, musicale, gustative, unique, avec vraiment beaucoup de découvertes et de rencontres entre les gens. C'est aussi un lieu magique. Limoud, c'est une signature. C'est inimitable. Donc, faites-nous confiance. On va vous faire... Laurent, continue.
Plaisir. Alors, moi, six mots de la fin.
Oui.
On s'est amusé à le faire avec l'équipe récemment. Ce sont les six lettres de Limoud.
Oui.
Et si on doit définir Limoud, c'est l'Echaim, innovation, merveilleux,
super.
Olam, le monde, unique, et la diversité. Bravo. Toute modestie.
Voilà. Bravo. Eh bien, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous remercier.
Merci,
vraiment,
Sandrine.
C'était passionnant
Merci,
de
Sandrine.
Vous entendre ici. Et on a un aperçu de ce qui sera dit entre le vendredi 7 mars et le dimanche 9 mars. Donc, venez nombreux pour la journée du dimanche. Il reste quelques places. Hein. Et puis, c'est une recette qui fonctionne, hein, comme vous l'avez dit. Des ingrédients qui sont bien émulsionnés. Et c'est toujours passionnant, très enrichissant. Et on en ressort heureux. Et oui. C'est bien là l'essentiel. Bonsoir et à
Merci.
Bientôt.
Merci Sandrine, merci beaucoup.